La Bourse Cash, chaque jour, 15h40. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Salle qui nous rejoint, le président de la Financière de la Cité. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Guillaume.
Vous voulez dire leurs quatre vérités au marché, Emmanuel? Vous êtes sûr?
Je suis sûr.
Pour vous, et c'est le message que vous venez faire passer aujourd'hui aux investisseurs, pour vous, il a raison le PDG de Renault, il a raison le PDG de Renault d'alerter sur l'impréparation européenne face à la Chine. Vous l'assumez?
Je l'assume.
C'est chaud. Le patron de Renault, le PDG de Renault a raison d'alerter sur l'impréparation européenne face à la Chine. Pourquoi était-il urgent de le dire aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs, Emmanuel?
Écoutez, effectivement, le PDG de Renault, Monsieur Sénard, a été auditionné récemment par la commission économique du Sénat. Il a eu tenu des propos extrêmement pertinents, avec beaucoup d'une très grande pondération sur la stratégie européenne face à la Chine concernant le sujet qui l'intéresse au plus haut point, qui est celui des véhicules électriques. Mais je pense que ces propos peuvent avoir un impact plus large. Effectivement, l'Union européenne s'est engagée dans un processus d'électrification de son parc de véhicules électriques, et semble-t-il sans avoir pris en considération l'ensemble des impacts à la fois économiques, sociaux, industriels que cela importait pour l'Union européenne. Et donc aujourd'hui l'Europe se retrouve démunie face à une Chine qui a fortement investi dans ce domaine et qui maîtrise l'entièreté de la chaîne à la fois d'extraction, de production et de mise en œuvre industrielle de ces métaux. Donc l'Europe se retrouve démunie alors qu'elle avait fortement investi dans ce domaine et qu'elle pouvait avoir une position de leader. Donc je crois que à plus long terme, ces propos nous interrogent sur l'ensemble de la stratégie européenne, c'est-à-dire qu'il semble qu'effectivement l'Europe se soit engagée dans ce processus d'électrification sans avoir véritablement pris en considération les impacts que cela pouvait avoir à la fois sur les territoires, sur la croissance, sur l'emploi et plus largement sur la stratégie industrielle européenne.
L'Europe a voulu se montrer en la matière herbivore dans un monde carnivore et à la fin ce sera le steak haché en gros de la Chine.
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on voit que sur la stratégie effectivement du pacte vert, l'Europe a organisé d'une certaine façon son forme a pris une position, si je puis dire, morale l'amène aujourd'hui finalement à être la victime auto-désignée du surinvestissement chinois dans ces matières.
Il y a quelque chose d'expiatoire même dans le choix
européen. Oui, il y a une forme de dimension de cette nature. C'est-à-dire que l'Europe a compté pendant des années sur la croissance chinoise, sur la capacité du consommateur chinois à absorber des produits européens. C'était le cas il y a 15 ans, au moment de la crise de la zone euro. Aujourd'hui, on le voit, la Chine ne déçoit. La consommation chinoise n'est pas au rendez-vous. Vous avez la crise de l'immobilier, la crise de la dette en Chine, et donc la Chine s'est engagée à nouveau dans un processus de dynamisation de ses propres exportations.
C'est ça.
Et cette fois-ci, ça concerne essentiellement effectivement les batteries, les véhicules électriques, toutes les nouvelles technologies vertes qui aujourd'hui sont prônées par l'Union européenne, mais sans que l'Europe ait mis en place le niveau de production, les outils lui permettant de faire face à cette concurrence.
Pour la Chine, les panneaux solaires, les véhicules électriques, les batteries remplacent l'industrie lourde aujourd'hui.
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, finalement, on peut considérer que le président Xi mène une politique, si je puis dire, néo-stalinienne, où dans cette logique, ce sont les panneaux solaires, les batteries, les véhicules électriques qui ont remplacé ce qui, il y a plus d'une centaine d'années, était le okay. Le cas en Union soviétique avec l'industrie lourde.
Pour l'Europe, il n'est peut-être pas trop tard. Les Américains, par exemple, on les voit se protéger, les Américains, effectivement, par une politique douanière, des choix économiques, l'IRA notamment, voilà. On les voit quand même dire, les Américains, c'est pas une fatalité tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir face aux véhicules chinois à bas coût. Mais enfin, voilà, ils se donnent les moyens. Est-ce que pour l'Europe, il est trop tard?
Je pense que pour l'Europe, il n'est jamais trop tard, mais il est vrai que les Américains se donnent les moyens, à la fois sur le plan douanier, puisqu'aujourd'hui, les véhicules électriques chinois sont frappés de droits de douane significatif. Il est probable que d'ailleurs que M. Trump, s'il était élu, augmenterait de nouveau encore plus ses droits. En Europe, on doit le reconnaître, nous n'avons pas les mêmes outils. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage des États-Unis, c'est qu'ils ont une politique monétaire et une politique budgétaire cohérente. Ils ont également une politique commerciale qui favorise leur industrie nationale. Ce n'est pas encore le cas en Europe. Mais on peut penser qu'avec ce qui se passe en Ukraine, avec la montée des périls, avec également l'agressivité commerciale de la Chine, l'Europe prenne le bon chemin. On ne peut pas désespérer entièrement du continent.
Les constructeurs européens, les constructeurs automobiles européens, il ne faut pas les acheter ou au contraire, on se dit ils sont à bas prix, il faut justement continuer. Alors Stellantis et Renault progressent bien depuis quelques mois.
Très sincèrement, il faut continuer de défendre l'industrie européenne et notamment les constructeurs automobiles européens. Depuis maintenant plus d'un an, d'ailleurs, vous notez un rattrapage important en termes au moins de valorisation boursière des constructeurs européens. C'est très favorable. On doit aller dans ce sens-là. Néanmoins, on doit également leur donner les marges de manœuvre industrielles et la visibilité qui leur permet effectivement de mettre en œuvre leur projet.
Aude Kersulec nous appelle, 15h47, la Tour Euronext en direct depuis le cœur de cette séance pan-européenne. Rebonjour Aude. Alors c'est intéressant parce que Wall Street Aude aujourd'hui recule un petit peu, mais l'Europe, elle, progresse. En tout cas, le CAC 40 fait mieux que Wall Street, pour une fois.
Le CAC 40, oui, mais il fait moins bien que les autres indices européens. C'est vrai que on a ouvert légèrement en hausse, on a rebaissé, et puis là, on ressort un peu la tête de l'eau, mais c'est pas glorieux non plus, plus 0,11% sur le CAC 40, 8160 points. On a un faible volume d'affaires, hein, comme finalement chaque début de semaine. En plus, c'est une semaine assez courte, donc on devrait pas non plus forcément s'envoler. Aujourd'hui, on a un milliard de volume d'affaires sur le CAC 40, et puis ça bouge pas forcément non plus beaucoup au niveau des principales des valeurs du CAC 40, puisqu'on a Thales, c'est les valeurs de la défense qui l'emporte aujourd'hui avec un secteur de la défense qui a un contexte géopolitique qui est très perturbé avec l'attentat de Moscou vendredi soir. Donc Thales qui prend 2,3%, et puis ça baisse en revanche pour le secteur bancaire ou encore la tech finalement comme à Wall Street.
Effectivement, puis il y a un relèvement d'opinion sur Dassault Aviation dont Thales profite. En plus, Aude, vous nous rappelez dès que vous le souhaitez, bien sûr, depuis la Tour Euronext. Emmanuel Salle nous accompagne également. Emmanuel, l'Europe en bourse, quand même, s'en sort pas si mal. Faut bien le dire. Alors aujourd'hui, c'est une belle séance en Europe. On progresse alors que Wall Street recule. Bon, mais ça, c'est l'écume des jours. Enfin, depuis le début de l'année, on n'a pas à rougir. Le Nasdaq, depuis le début de l'année, gagne 9%. Notre CAC, 7%. On fait presque aussi bien que le Nasdaq. Et en plus, on voit depuis quelques semaines le retour des valeurs de bons pères de famille sur les marchés. Ces valeurs-là recommence à trouver de la performance. Est-ce que ça, c'est de bon augure pour l'Europe en
bourse ? Oui, je pense que c'est de très bon augure. C'est vrai que l'économie européenne, à la différence des États-Unis, elle est plus diversifiée. Elle repose sur des valeurs plus classiques, à la fois la pharmacie, l'automobile, vous en parliez, les matériaux de base, la construction. On est vraiment dans une économie vraisemblablement plus mature que l'économie américaine, d'une certaine façon. En tout cas, moins portée par des phénomènes de bulle comme nous l'avons connu depuis plusieurs mois. Et ce que l'on observe depuis un petit mois, c'est effectivement un retour des valeurs de rendement, des valeurs d'actifs, des valeurs dites value par rapport aux valeurs de croissance. Et ce que l'on doit reconnaître, effectivement, c'est qu'aux États-Unis, en revanche, vous avez une très forte concentration du marché, vous le savez, sur les 7 magnifiques, essentiellement sur les valeurs de la technologie, qui continuent bien évidemment de performer. Mais néanmoins, on peut s'interroger aujourd'hui de savoir sur quelles valeurs effectivement se positionner. Et à cet égard, l'Europe offre par rapport aux États-Unis certainement une zone de diversification avec une économie peut-être plus équilibrée et moins sensible effectivement à des secteurs extrêmement extrêmement limités. D'ailleurs, dans cet ordre de d'esprit, on doit savoir qu'effectivement les principaux dirigeants, vous le savez, des valeurs de la technologie ont la semaine dernière annoncé qu'ils procédaient à des ventes importantes de leurs positions. Donc il ne faut pas nécessairement en faire un signal annonciateur, puisque ces ventes ont apparemment trouvé preneur. Mais néanmoins, c'est quand même un élément suffisamment significatif pour le signaler.
Et le fait que les indices soient sur des records en même temps que l'once d'or, 2180 $, là, cet après-midi, l'once d'or, c'est un plus haut historique. C'est forcément un réflexe défensif, là, de la part des investisseurs d'acheter de l'or, ou vous voyez d'autres explications?
Vous le savez, nous, à la Financière de la Cité, ça fait longtemps qu'on plaide pour la détention d'or au sein des patrimoines. Entre 10 et 15% me paraît effectivement une position raisonnable. Et je ne suis pas surpris que dans un contexte finalement de baisse des taux d'intérêt réels, avec également une montée des tensions géopolitiques, l'or reprenne quelques couleurs. Après tout, c'est une forme de Bitcoin, mais qui repose sur un actif réel. Et à la différence du Bitcoin, l'or est accepté dans toutes les transactions, aussi bien entre les banques centrales qu'entre les particuliers.
J'aurais jamais cru que vous-même viendriez nous proposer un parallèle entre l'or et le bitcoin. Bien sûr, la communauté crypto, alors là, c'est le premier réflexe. Le bitcoin, c'est l'or numérique. Je vous ai pas posé cette question sur le bitcoin, mais vous avez ressenti naturellement le besoin de nous dire l'or, c'est le bitcoin, mais en mieux. Mais c'est quand même le bitcoin.
Ce qui est très frappant, c'est que le bitcoin a besoin finalement aujourd'hui d'être d'une certaine façon officialisé par l'existence d'ETF, enfin d'outils de trading qui permettent aux investisseurs de détail d'intervenir directement sur le bitcoin. Donc, ce qui est très frappant, c'est que le bitcoin, qui était une forme de fiction à la fois libertaire et ordolibérale, enfin si je puis dire libertarienne, et besoin finalement aujourd'hui de la sanction des États, de la sanction des autorités pour exister dans la sphère financière, alors que l'or qui, de toute éternité, est pleinement accepté comme moyen de paiement, n'en est pas besoin. Et finalement, soit aujourd'hui toujours aussi recherché qu'il l'a été dans le passé.
69 200 dollars pour un bitcoin, 2180 pour une once d'or. Voilà où on en est aujourd'hui. Et le CAC 40 en légère hausse, mais un peu moins bien. Aude nous le disait, un peu moins bien que les autres marchés européens, notre CAC cet après-midi. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir accompagnés.
Merci, Guillaume.
Emmanuel Salle est le président de la financière de la Cité.